Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
Vous savez, il y a ce qui plane sur notre tête et personne n'a des boules de, une boule de cristal pour y voir l'avenir. On a peut-être un moment donné où on sera tarifé de 25 % de plus à la frontière sur nos exportations. Et pour nous en parler aujourd'hui, ça va être Louis Lévesque, qui est le président du comité politique public de l'Association des économistes québécois. Monsieur Lévesque, bienvenue à Truck Stop Québec.
Oui, bonjour.
Monsieur Lévesque, 25 %, ça va nous coûter quoi? Puis je sais qu'on n'a pas de boule de cristal. Est-ce qu'il y a des emplois qui risqueraient d'être perdus? Puis peut-être pousser la discussion plus loin. Est-ce que vous y croyez qu'un jour, il y aura une imposition de 25 %?
Je pense que la réponse à votre dernière question, c'est que personne ne le sait, mais tout le monde doit espérer que ce ne sera pas le cas. Parce que s'il y a des tarifs très importants qui sont imposés sur les exportations canadiennes, ça va avoir des impacts très négatifs sur l'économie canadienne. Puis en fait, ça va avoir des impacts négatifs aussi sur l'économie américaine.
Oui.
Parce que la première chose qui arrive quand un tarif est imposé, le tarif il est imposé sur l'importateur, c'est l'importateur qui doit maintenant payer un tarif. Donc, il doit revendre ses pour être demeuré rentable, il va devoir vendre ses choses plus chères sur le marché américain. Et donc, les consommateurs américains vont subir des augmentations de prix. On en a parlé dans le cas du bois d'œuvre, notamment pour la construction de maisons, mais l'essence, s'il y avait des tarifs sur l'énergie, mais c'est sur tout ce qui est exporté. Ça, à court terme, ça faisait des augmentations de prix. Du point de vue du Canada, à court terme, le message que ça envoie aux entreprises, c'est « Oh, on avait l'habitude de pouvoir accéder au marché américain. Là, dans le fond, nos conditions d'accès changent de façon importante. Ça diminue notre compétitivité. C'est sûr que si c'est 25 % très rapidement, les exportations aux États-Unis vont diminuer.
Oui.
Ce qui veut dire qu'il y a des gens ici qui vont être mis à pied dans les entreprises qui fabriquent ces exportations-là. Si c'est 25 % s'il y a plein d'économistes de banques, là, il y a plein de banques en services économiques qui ont fait des analyses. On parle de plusieurs centaines de milliers d'emplois perdus au Canada, d'une récession à court terme. Et donc, c'est quelque chose qui aura un impact extrêmement important. Malheureusement, le fait que, bon, finalement, que le président Trump ait reculé, n'ait pas imposé ces tarifs-là,
oui.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact négatif actuellement à court terme. Les économistes, notamment de la Banque nationale, évaluent que l'incertitude, c'est-à-dire le fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver,
oui.
Ça a déjà un impact négatif, qui eux autres, ils mettent un niveau équivalent peut-être des tarifs de 7 à 10 %
déjà.
Parce que, dans le fond, l'incertitude joue de façon importante sur l'investissement. C'est-à-dire, les entreprises, là, quand ils veulent investir au Canada, en général, ils investissent pas seulement pour le marché canadien. Ils investissent avec l'idée « je vais avoir accès au marché américain ». Et c'était l'espace économique qui a été construit dans les 40 dernières années. Là, le président Trump dit « non, c'est plus ça ». Et donc, quel va être le régime dans l'avenir? Est-ce que c'est 5 % aujourd'hui, 20 % c'est dans deux mois, 50 % dans deux... C'est une incertitude extrêmement difficile à gérer pour les entrepreneurs. Et donc, pour eux, à ce moment-là, s'ils voient vraiment des possibilités dans le marché américain, ils vont peut-être décider carrément d'investir aux États-Unis. Et donc, ça a un impact négatif à la fois à court terme parce qu'on vend moins aux États-Unis s'il y a des tarifs, mais aussi un impact à moyen puis long terme parce que ça dit aux entreprises, vous ne pouvez pas compter sur vos conditions d'accès au marché américain, donc c'est risqué d'investir au Canada ou au Mexique. Puis ça fait partie probablement du jeu de M. Trump de créer cette incertitude-là.
On comprend, il veut amener les entreprises en sol américain, mais d'un autre côté, est-ce que, tu sais, de la part des grands fabricants de véhicules, que ce soit camionnettes, autos, tout ça, le fait d'investir au Canada, c'est parce que c'est des économies, soit des pièces, soit de la main-d'œuvre, soit peu importe, tu sais. Il y a une économie à participer dans la collectivité canadienne. Donc, j'imagine que pour eux autres, c'était bon. Mais demain matin, si on amène tous nos œufs dans le même panier et qu'on fait juste du travail américain, qu'est-ce que ça va faire? En tout cas, moi, je pense, puis je ne suis pas économiste, vous êtes bien meilleur que moi là-dedans, mais est-ce que éventuellement les prix augmenteront aux États-Unis? Ça fera que ça va créer aussi une explosion des prix vers la hausse parce qu'il y aura peut-être juste aux États-Unis où on fournira les pièces pour ces fabricants-là. Là.
Vous avez tout à fait raison. Une bonne analyse. La première chose qu'il faut se dire, l'économie américaine actuellement a un taux de chômage de 4 % et M. Trump, dans le fond, veut renvoyer un certain nombre d'immigrants, un nombre important d'immigrants illégaux.
Oui.
Mais en même temps, il veut rapatrier un paquet d'activités économiques aux États-Unis. Tout ça, ça va être massivement inflationniste.
Oui.
Ça prend de la main-d'œuvre pour produire. L'économie américaine fonctionne à plein régime. Et les économies américaines, canadiennes et mexicaines se sont adaptées dans le temps. Là où c'est on est une entreprise plus efficace pour faire quelque chose, c'est là qu'on le met. C'est un gain pour les deux pays.
Effectivement.
Les États-Unis ne peuvent pas tout simplement dire « je vais tout rapatrier la production ». Oui, mais il faut avoir du monde pour produire, il faut avoir des installations pour produire. Et ça, ça se fait sur une longue période de temps. Mais vous êtes deux jours plein emploi. C'est pas une situation où vous allez augmenter votre emploi. Vous êtes deux jours plein emploi. Donc, ça va être plein. Pour les États-Unis, c'est plein d'inflation. La mauvaise nouvelle par rapport à ça, c'est que pour eux, c'est relativement, tout le commerce international, c'est beaucoup plus petit pour eux dans leur économie que ça l'est pour nous. Parce que nous autres, on dépend beaucoup de nos exportations aux États-Unis. Eux dépendent de leur exportation, de leur importation, de leur exportation au Canada puis au Mexique, mais pas au même degré, parce que l'économie américaine est beaucoup plus grosse.
Oui.
Donc, dans une guerre que le Wall Street Journal a qualifiée la guerre commerciale la plus stupide de l'histoire, les pertes vont être seraient disproportionnées en termes pour le Canada et le Mexique par rapport aux États-Unis.
Fait que tout le monde a à y perdre là-dedans, y compris les Américains. Mais point de vue d'un économiste, est-ce que ça tient la route, les demandes du président Trump actuellement de dire on va affaiblir économiquement notre partenaire depuis des centaines d'années, on va y faire mal, tout ça. Est-ce que ça tient la route de faire une guerre commerciale comme ça?
Ça ne tient pas la route parce que il n'y a pas de gagnant des guerres commerciales, il y a seulement des perdants. Comme je vous disais, c'est une guerre où, au final, il y a des pertes des deux côtés. Nos pertes sont relatives, sont plus importantes, mais tout le monde s'appauvrit. Et c'est le contraire de ce que les États-Unis ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, ont compris que c'était dans leur intérêt de reconstruire l'économie de l'Allemagne et du Japon.
Effectivement. Puis
c'était bon. De les transformer en des partenaires commerciaux.
Oui.
C'est exactement le contraire. Du point de vue économique, ça n'a pas de sens.
Puis,
mais c'est une logique de politique ou la façon dont le président comprend les choses, mais qui ne fait pas de sens économique.
Ben, c'est parce qu'une journée, le Canada est imposé de 25 % on réduit à 10 % le Mexique. Fait qu'on dirait qu'on a de l'air des pantins qui se font jouer après les câbles pour bouger de temps en temps. J'ai comme l'impression que c'est comme un genre de prise de pouvoir ou quelque chose comme ça, ou tout simplement, il y a dans son intérêt de rallier le Canada et de devenir un 51e État américain. C'est peut-être ça qui est derrière tout ça.
C'est dur de comprendre exactement les motivations qui changent, puis les raisons qui sont données publiquement qui changent de façon régulière. D'un point de vue économique, ça ne fait pas de sens. Ce qui s'est passé dans les 40 dernières années est à l'avantage des États-Unis, du Canada et du Mexique. Les États-Unis ont des doléances sur d'autres enjeux. Bon, la question de la frontière, puis là, on peut débattre de quelle est la proportion de fentanyl qui vient du Canada, etc. Ou encore les dépenses du Canada en matière de défense. Je pense que ce sont des choses qu'on devrait faire de toute façon, c'est-à-dire bien gérer notre frontière puis augmenter notre budget de la défense pour respecter nos engagements à l'égard notamment de l'OTAN. Mais c'est dur de voir quel est le plan et s'il y a ce plan-là ou cette approche-là ne marche pas du point de vue économique.
Oui, effectivement. Demain matin, on se fait imposer, parce que là, ce qui nous pend au bout du nez, c'est début mars, 1er mars. Mm-hmm. Est-ce que ça serait, comment est-ce qu'on pourrait évaluer le nombre de pertes d'emploi devenant une tarification de 25 % de tarifs douaniers imposés par l'administration Trump? Est-ce qu'on peut parler de dizaines de milliers d'emplois ou de centaines de milliers d'emplois perdus?
Si on parle au Québec, on a parlé du chiffre de 100 000 emplois perdus, potentiellement. Okay. Au Canada, c'est plusieurs centaines de milliers. Et ça, ce sont les impacts à court terme. Mais à long terme, ben, les gens vont se retrouver d'autres emplois. L'économie va se réajuster. On va exporter moins aux États-Unis. Mais le résultat, c'est que tout le monde va être plus pauvre. C'est-à-dire ouais, c'est que, ça. Dans le fond, au lieu d'employer les gens là où ils sont le plus efficaces, puis ils sont intégrés dans des chaînes d'approvisionnement, ben on va se recentrer plus sur le marché canadien ou d'autres marchés d'exportation. Mais il n'y a aucune façon pour le Canada, dans le fond, de maintenir son niveau de vie, son PIB par habitant, si tout d'un coup, on coupe son accès de façon importante au marché américain.
Ouais.
Parce que c'est un marché américain qui est le plus rentable et où là, on est le plus proche et le plus efficace.
Ouais.
Donc, tous les discours sur la diversification, oui, on devrait peut-être se diversifier. Mais la réalité brutale, c'est qu'il y a des générations d'entrepreneurs qui ont compris que, oui, c'est bien de se diversifier, mais le marché américain est plus proche, physiquement, ouais. Donc pour les ouais. biens, c'est important pour les coûts de transport, comme vous dites, les camionneurs, vous savez ça.
Oui, effectivement. C'est même des emplois qui seraient perdus dans notre communauté.
Exactement, parce que la chose importante à se rappeler, c'est que le Canada, sa structure économique est largement basée nord-sud. La très grande majorité de la population du Canada vit à peu près à 100 km ou moins de la frontière américaine. On a un très vaste territoire.
Oui.
Mais les gens se sont installés là. Pourquoi? Parce que les opportunités économiques étaient là.
Oui.
Donc, puis on parle aussi de réduire les barrières commerciales entre les provinces du Canada. Absolument, on devrait le faire. On ne devrait pas attendre que le président Trump nous dise, nous mette dans une situation où ça devient comme absolument essentiel, mais le point au final de tout ça, ce sont des mesures pour s'ajuster à une situation qui va faire que globalement, ça appauvrit le Canada, ça appauvrit le Mexique,
oui.
ça appauvrit les États-Unis, mais moins, évidemment, parce qu'eux sont plus gros, puis relativement pour eux, c'est moins important.
Oui, effectivement. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez au point de vue économique? Du fait que nos gouvernements maintenant et même une partie de la population commence à vouloir renier tout ce qui est américain, c'est-à-dire que, bon, désabonnez-vous de certaines plateformes aux États-Unis, n'achetez plus américain, faites valoir vos droits, débouquez vos vacances au niveau américain et allez ailleurs. Mais est-ce qu'on se tire dans le pied, sachant des fois aussi qu'il y a des entreprises qui ont le logo américain, qui viennent des États-Unis, mais qui font travailler énormément de personnes ici, de ce côté-ci de la frontière?
Ben, la réaction des gens est un peu compréhensible parce qu'il y a beaucoup de frustration puis devant des actions qui n'ont pas de justification puis qui s'en viennent au Canada puis au Québec d'une façon totalement inappropriée.
Ouais.
Mais en même temps, l'autre point, c'est que les gens sont tout à fait libres de décider de consommer ce qu'ils veulent pas. Mais au final, si on défait le tissu économique actuel, ben il y a des coûts d'ajustement importants. Comme vous dites, il y a plein de monde qui travaille dans des entreprises pour s'occuper de choses qui viennent d'importation américaine, mais pour lesquelles déjà peut-être des gens au Québec ou au Canada ont déjà contribué dans le cas des automobiles, etc.
Oui.
On peut aussi décider d'acheter plus de jus d'orange, etc. Mais ce sont des gestes symboliques, puis c'est compréhensible. Mais quand vous regardez l'ampleur des échanges, là, en termes de milliards et milliards et milliards et milliards qu'on a avec les États-Unis,
oui.
C'est sûr que les actions individuelles sur des produits de consommation finale, c'est un geste, mais ça n'aura pas beaucoup d'impact économique. Et si, dans le fond, comme vous le dites, vraiment, là, on décide de changer complètement, bien, il va y avoir des gens qui vont être impactés ici parce qu'ils travaillent dans les industries qui sont en connexion avec les États-Unis, c'est clair.
Oui. Mm-hmm. Puis, tu sais, veux pas, c'est parce que, bon, je prends les boissons gazeuses qui, généralement, viennent pas d'ici. Il y en a quelques-unes qui sont fabriquées ici. Mais, mettons, la recette est expédiée Prenons exemple de Pepsi. Pepsi, les recettes sont expédiées chez Alex Coulomb. Alex Coulomb les embouteille, fait travailler, je pense, j'ai vu 1700 ou quelque chose, emploi au Québec. Il y a du transport qui se fait. C'est une économie qui fait en sorte que... Bon, c'est de la boisson gazeuse, mais il y a quelqu'un quelque part qui en tire profit, puis ça reste en sol ici, même si les profits vont peut-être être envoyés à la corporation américaine, sauf qu'on a mis 1700 ou 2000 emplois qui sont directement impactés pour une entreprise de même. Ça veut dire que si on boycotte une marque comme ça, bien, on se tire, je pense, dans le pied en imposant ici la perte d'emploi de 1700 personnes juste pour ça. C'est sûr que si demain matin, le monde dit on se retire, comme je voyais en fin de semaine, on se retire de Netflix, je pense pas qu'ils ont grand-chose en sol canadien. Ça n'aura peut-être pas d'impact, mais les Amazon de ce monde, quoique on a enlevé des emplois dernièrement, mais ça reste que c'est une économie aussi. Il y a des fournisseurs québécois, il y a des fournisseurs canadiens là-dessus. Donc, c'est eux autres aussi qu'on va impacter par la bande, là.
Tu as fait raison, il y a tout un écosystème de fournisseurs. Puis l'exemple d'Alex Coulomb est intéressant. Quelqu'un va vous dire à long terme, bien, si les gens achètent des boissons qui sont faites ici, à la place, oui, mais tout le processus d'ajustement pour aller là, dans le sens que l'entreprise a des contrats avec Pepsi, il y a peut-être quelqu'un qui va partir à une autre entreprise à côté, est-ce qu'ils vont payer les mêmes salaires, les mêmes conditions qu'une entreprise qui est établie depuis des années, etc. Puis là, il y a plein de gens qui travaillent dans cette entreprise-là, qu'est-ce qui leur arrive eux autres individuellement. Toute cette, dans le fond, cette incertitude-là, là, c'est extrêmement négatif. Là.
Oui.
C'est pour ça qu'il faut vraiment espérer que les menaces américaines, ou les menaces plutôt du président Trump, puis je pense pas que c'est la majorité des Américains qui veulent faire ça, ne se matérialisent pas. Si jamais ça se matérialise, il va y avoir des ajustements importants. On pourra décider de collectivement de dire on veut plus telle chose, etc. Mais ces ajustements-là, là, c'est ce sont des années pendant lesquelles il y a des pertes d'emplois, il y a du dans le fond, des gens qui, dans le fond, perdent une situation dans laquelle ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient. Ils doivent aller faire d'autres choses, ils vont peut-être être moins bons.
Oui.
Puis c'est un appauvrissement généralisé. Mmh.
Effectivement. Monsieur Lévesque, merci beaucoup pour cet éclairage-là aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du comité politique public de l'Association des économistes québécois, pardon. Et bon, souhaitons que ce soit que de courte durée, ces genres de menaces-là, et qu'on puisse passer après ça à l'attaque et peut-être retravailler un peu notre économie et peut-être trouver le moyen d'avoir une meilleure cohabitation avec nos voisins du Sud.
C'est totalement à espérer.
Oui. Merci, M. Lévesque.
Merci, bonne journée.